Nous avons eu beaucoup de plaisir et d'émotion à revenir en arrière et à repenser au chemin parcouru. Moi, j'ai 67 ans, Gérard a bientôt 69 ans, donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup d'années. Donc c'était un peu comme une concertina, je ne sais pas si vous connaissez ces instruments, c'est comme des accordéons, qu'on ouvre et qui se déplient et se déplient encore. C'est-à-dire qu'un souvenir en ramenait un autre et encore un autre. Et pendant ce temps, pendant qu'on déplie l'instrument, eh bien, il se remplit d'air. Ensuite, on appuie sur les touches pour faire des notes. Et là, il a fallu faire le tri et décider ce qui était important et sur quelles touches on allait appuyer. Des notes gaies, des notes graves, ça dépend des moments et des personnes. Donc, on va présenter cet itinéraire sous forme de récit à deux voix, en commençant par évoquer notre jeunesse. Alors, je laisse la parole à Gérard.
Alors, j'aimerais vous raconter une histoire qui résume ma vie. C'est un enfant qui est au bord de la plage. Les plages du Nord, vous savez, où il y a beaucoup de sable, où la mer recule très loin. Et à ce moment-là, il y a des milliers d'étoiles de mer qui ont été refoulées par la mer et qui sont en train de mourir et de sécher. Et là, au bord de la mer, il y a un petit enfant qui prend une étoile, qui se précipite vers la mer, qui jette cette étoile. Il revient, il rejette cette étoile. Et il y a un adulte qui le voit faire et qui lui dit « Mais tu perds ton temps, regarde, il y en a des milliers. » Et l'enfant prend cette étoile, il se précipite vers la mer. Et il dit à cet homme, pour celle-là, ça fera la différence. Je suis cet enfant. Je suis né donc le 27 novembre 1949, donc à Lille, dans une ville du nord de la France. Bon, mon père et ma mère se sont connus en Allemagne pendant la guerre. Lui a été pris par les Allemands pour le STO, le service de travail obligatoire, et ma mère polonaise a été emmenée en Allemagne aussi pour la même raison. Mon père et ma mère, après la guerre, mon père a amené la femme qui deviendra ma maman en France avec lui. Elle ne reverra jamais ses parents. Ça, c'est pour situer le cadre familial. Mon père travaillait dans les PTT. Il a été cuisinier dans le restaurant d'entreprise. Et ma mère faisait des ménages pour nous permettre de joindre les deux bouts. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, mon père avait un problème. Il était alcoolique. Il n'était pas ivre tous les jours, hein, mais au moins une semaine sur quatre, à partir du moment où il recevait son salaire jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'argent. Pour satisfaire cette addiction, il prenait un quart de sa paye. Ma mère essayait de joindre les deux bouts. Hein. À chaque fin de mois, nous avions une ardoise, je me rappelle quand j'allais faire les courses, à l'épicerie du coin. Je me rappelle une fin de mois difficile où nous n'avions plus d'argent. Nous avons mangé des frites pendant une semaine entière, midi et soir, parce qu'à la paroisse, on nous avait donné des pommes de terre. À la demande de ma mère, j'allais souvent chercher mon père au café, et je le tirais par le bras pour l'amener à la maison. La chance que nous avions, c'est que mon père n'avait pas le vin violent, mais le vin gai, donc ça rigolait quand même pas mal dans la maison. Pas ma mère, mais moi je rigolais pas mal. Vous comprenez pourquoi j'aime rire maintenant, hein ? Bon, ma mère polonaise était une catholique fervente et pratiquante. Il était normal pour mes parents que j'aille au catéchisme. Et là, ce fut pour moi une révélation. Il y en a qui l'ont très mal vécu, ben pas moi. J'ai tout de suite été intéressé par l'histoire sainte, au point que j'étais premier au catéchisme. J'apprenais bien mes leçons, parce que cette histoire de Jésus, ça me passionnait. En récompense, un des prêtres m'a demandé si je voulais devenir enfant de cœur, ce que j'ai accepté avec plaisir. J'avais le plaisir justement de servir la messe. Et il m'arrivait même de servir deux messes, celle de 8h30 et la grand-messe de 10h. Dans les processions, j'étais porteur de chandeliers. Vous savez, j'y vois un signe prophétique pour la suite de ma vie. L'évangile dit, vous êtes la lumière du monde et il ne faut pas la cacher. Et elle doit être vue de tous. À l'âge de 12 ans, j'ai fait ma communion. On va les faire rire. Ben voilà, il est encore qu'il est beau, regardez. Non ? Alors. J'ai fait ma communion solennelle. Et je me rappelle, parce que pour beaucoup, la communion solennelle, ça représentait la belle monde qu'on a à offrir et les cadeaux, mais moi, non. Je me rappelle de la promesse que j'ai faite. Je renonce à Satan et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. J'étais pas né de nouveau, mais pour moi, ma foi avait de l'importance. Et c'est pour ça, dans mon cheminement, je suis passé d'un endroit à un autre, sans renier ce que j'ai vécu dans chaque endroit. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, ils bafouent, en disant, voilà, ce que j'avais vécu avant, c'est rien. Par rapport à ce que je vis, non. C'est un cheminement, la vie est un cheminement. Donc, après 12 ans, j'ai fait ma communion et il m'est arrivé aussi même de, on se refait, de chanter au micro. Eh oui, pour entraîner les paroissiens à la messe. Terre entière, chante ta joie au Seigneur, alléluia. Oui, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait dans l'église, Jean-Louis ? La louange, et j'ai porté le chandelier. Voilà. Eh oui. Alors, un copain d'école m'a parlé d'un club de jeunes où il allait. Ce club de jeunes était animé par l'armée du salut. On pouvait jouer au baby-foot, super, ping-pong, assister aux séances de ciné-club. Il y avait un club de judo, donc je me suis inscrit au judo. Je ne suis pas resté longtemps. Et à un certain moment, ils ont lancé donc des cours de guitare. Et je m'y suis inscrit. Et c'est là que j'ai appris à jouer de la guitare. Sur la mélodie de « Tous les garçons et les filles de mon âge ne savent pas ce que c'est qu'être heureux. Hein » Ah, j'ai perdu ma deuxième page, ça ne va plus. Bon, voilà, elle est restée collée. Bon. Alors, et aussi sur l'air de la chanson « Les gens m'appellent l'idole des jeunes ». Alors, les salutistes m'ont invité à venir à leur réunion le dimanche. Et ce fut une découverte pour moi. Pour la première fois, j'entendais des prières spontanées. J'avais l'habitude des prières récitées. Moi, à l'époque, la messe était en latin. Hein. Des témoignages de l'action de Dieu, des gens se lever le dimanche matin ou le dimanche après-midi et parler de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Il y avait des cantiques qui étaient quand même un peu plus modernes que ceux que je connaissais. Et on m'a proposé de suivre une instruction religieuse, un deuxième catéchisme un peu plus évolué. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que j'ai commencé par là à lire la Bible et à faire connaissance de la Bible, que je n'avais jamais lue. Il s'en est suivi une période assez troublante. Le matin, j'allais à la messe, j'étais très chrétien, hein, et ensuite j'allais au culte à l'armée du salut. Je ne savais plus où j'en étais. Alors j'ai fait cette prière à Dieu. Révèle-toi, et là où tu vas te révéler, je m'attacherai. Si c'est à l'Église catholique, je reste. Si c'est à l'armée du salut, je reste aussi. Et alors que j'étais donc un dimanche matin en train de lire ma Bible, que l'armée du salut m'a fait découvrir, j'ai ressenti la présence de Dieu d'une manière très forte. Et j'ai compris qu'il m'aimait d'une manière personnelle. Je savais bien sûr, comme tout bon catholique, que Dieu aimait les hommes, que Dieu aimait l'humanité, tout entière, mais moi personnellement. Et là, ça a complètement changé ma vie. Il y a aussi eu la lecture d'un livre de Watchman Nee qui s'intitule « Être assis, marcher, tenir ferme ». Et j'ai compris, par cette parole de Jésus sur la croix, tout est accompli, qu'il n'y avait rien à faire pour mériter son amour. Vous l'avez vu, hein, on est dans le cœur, on l'a chanté, on est dans le cœur du Père, on n'a rien à, voilà, on mérite rien, mais Dieu nous aime. Plus tard, j'ai lu dans l'épître aux Éphésiens une parole qui, pour une personne qui était catholique, donc résonne quand même fortement. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, donc c'est gratuit. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, en tant que catholique, je croyais en l'amour de Dieu et que l'amour de Dieu se méritait par l'accomplissement de beaucoup d'œuvres bonnes. Je pensais que jamais je pourrais être à la hauteur pour mériter que Dieu m'aime. Eh bien, j'ai découvert la grâce et l'amour immérité de Dieu. Il y avait donc un livre de couleur bleue. On y voyait un homme avec une très longue barbe, hein, à la façon des prophètes. Et cet homme, c'était William Booth, le fondateur de l'armée du salut. Le titre était d'ailleurs « Un prophète des temps modernes ». Je l'ai lu et j'ai été très, très impressionné par l'amour qui se dégageait de cet homme. Ensuite, j'ai lu tous les livres sur l'armée du salut, hein, sur les pionniers. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler comme coursier. Et c'est vrai que ces livres m'ont donné la vision du monde perdu et l'importance qu'il y avait d'aller chercher l'étoile qui était en train de se sécher là. Et de l'amener dans la mer. Et ça, je le dois à ce passage dans l'armée du salut. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler comme coursier dans une entreprise de textile. Belle aubaine, je distribuais le courrier dans tous les bureaux. Donc, dès que j'en avais l'occasion, devinez ce que je faisais. Je parlais du Seigneur. Donc, tout le monde savait que j'étais chrétien. Avec d'autres jeunes du poste, nous avons créé un groupe. Regardez ça un peu, c'est vieux. Hein. Pop, alléluia. Oh. 1983, hein. Il y a des chrétiens qui chantaient de la musique moderne, hein. En 1983, vous vous rendez compte? Et alors, groupe salutiste, hein, qui s'était inspiré d'un groupe anglais qui s'appelait les Joy Strings, qui étaient des officiers qui jouaient du rock chrétien, dans les années 60, à l'époque des Beatles. Vous imaginez, ils ont eu le disque d'or en Angleterre. Donc c'était, on était à l'avant-garde. Les évangéliques n'existaient pas du tout sur le plan de voilà quoi. Bon, et on a commencé un coffee bar, et alors avec ce groupe, on allait dans la rue faire des concerts. Alors c'était tout à fait nouveau, on branchait l'électricité, il y avait tout de suite 100 personnes qui s'arrêtaient, on pouvait annoncer l'évangile d'une manière formidable. On a fait un coffee bar, et par ce moyen-là, eh bien, nous avons vu beaucoup, je ne peux pas vous les raconter, de jeunes qui sont devenus chrétiens. Je n'avais qu'un désir, c'est servir Dieu et le servir à plein temps, comme le proposait l'armée du salut. Donc j'ai fait donc l'école biblique de l'armée du salut qu'on appelait l'école militaire. Et c'est normal, hein, c'est une armée. Alors, bien sûr, il y avait les cours bibliques, je les ai faits avec plaisir, de doctrine, d'histoire. Mais ce qui me plaisait le plus, eh ben, c'était les sorties en brigade. Pourquoi ? Parce que nous allions dans les postes d'évangélisation dans tout Paris. Nous faisions des plein air pour annoncer l'évangile, des réunions d'évangélisation. C'était la mise en pratique. Et je voulais toujours plus de Dieu. À l'école biblique, on nous a appris, malheureusement, que les signes et les miracles s'étaient arrêtés avec l'Église primitive. Dans ma chambre, je lisais la revue « Expérience », où on parlait de ce qui se passait dans le milieu de Zigane, et puis du réveil chez les catholiques, dans les églises. Et ça fait naître en moi le désir d'être rempli de l'esprit. Et je me rappelle avoir organisé une journée de jeûne dans l'école militaire avec deux ou trois cadets, les autres, s'ils n'étaient pas intéressés, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Rien ne s'est passé dans la journée. Nous étions en brigade à Pigalle. Oui, un peu, hein. On est obligé de mettre les filles sur le coin où il y avait les habitations et pas le trottoir, parce que de peur qu'elles se fassent. Hein, donc c'était dans Pigalle. Et là, j'avais préparé donc une prédication à donner sur Noé dans la salle, et je devais, dans le plein air, donner qu'un témoignage. Et là, ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Au moment où je parlais, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Mais alors, d'une manière où j'ai commencé à presque pleurer pour les gens, à avoir un amour. Et les gens étaient scotchés, ils se sont arrêtés. Je veux dire, il y avait peut-être une centaine de personnes. Je veux dire, j'ai prêché l'évangile, donc sous l'onction de l'esprit. Le plein air était à 100 mètres de la salle. On a ouvert la salle, elle s'est remplie complètement. J'ai pu prêcher l'évangile. Et à un certain moment, je suis tombé à genoux, je pleurais pour les gens. Et pendant une semaine, j'étais au ciel. Donc ça a été vraiment un baptême d'amour qui a transformé ma vie, qui a fait de moi aussi en même temps ce que je suis. Donc quelqu'un qui veut prendre une étoile et la mettre dans la mer. De 1971 à 1974, je suis sorti de l'école militaire et j'étais affecté dans un poste à Paris, à la salle centrale. Et puis après, donc, j'ai été comme officier commandant dans le poste de Saint-Étienne. Et là, j'ai vécu en tout cas une période des temps bénis, extraordinaires. Donc, nous avons ouvert un coffee bar. J'ai fait venir deux amis qui s'appelaient donc Jean-Louise et Kwasi, qui étaient des gens qui m'ont encouragé dans le début de ma vie dans l'Esprit Saint. Et puis, nous avons eu des réunions de prière avec des jeunes qui commençaient à 9h, qui se terminaient à midi. Personne ne regardait la montre. C'était incroyable. Ils venaient sur les jeunes, ils posaient la main, ils recevaient des paroles, c'était des prophètes, hein, une flaque de larmes. Ils priaient, paf. J'avais jamais vu ça, quoi. Et puis, d'autres choses que je ne peux pas vous raconter. Mais enfin, bon, voilà, c'était dans cette situation-là que j'étais. Mais je vais laisser la parole à Corinne qui va raconter son enfance à elle. Et après, on verra quand on est ensemble.
Voilà, je vous situe tout de suite le contexte. Donc, le bébé, c'est moi. La dame, c'est la belle-fille du fondateur de l'Armée du Salut, c'est Florence Bousse. Debout derrière, c'est mon papa, Stuart. Et à côté, c'est mon grand-père, Wycliffe. Donc, je suis née dans le berceau salutiste. Voilà, donc je suis née en Grande-Bretagne. Et mes parents donc, étaient dans l'Armée du Salut. Ils étaient officiers de poste, l'équivalent de pasteur. Et j'ai été bercée par les fanfares et les réunions dès mon jeune âge. À la maison, nous avions le culte de famille et j'aimais tout ce qui avait trait à la Bible. Je vois encore ces Bibles pour enfants qu'on m'a offertes avec ces illustrations. J'aimais beaucoup lire et relire ses récits, ça me fascinait. Comme enfant, nous étions impliqués de très près dans la vie des postes où mes parents étaient affectés, d'abord en Angleterre, puis ensuite à Belfort, à Lyon, ensuite à Paris. Nous logions juste au-dessus de la salle de réunion et forcément nous étions mêlés à tout ce qui se vivait, même si nous ne comprenions pas tout. J'aimais particulièrement la jeune armée, donc c'est l'équivalent du catéchisme. Elle avait lieu le jeudi après-midi et le dimanche matin. On y écoutait des histoires de la Bible, on chantait, on faisait des jeux. J'aimais beaucoup aussi les fêtes de Noël, avec les pièces que mon père montait et où nous avions tous un rôle. Alors j'étais tantôt ange, tantôt berger, tantôt étoile. On a fait le tour de la nativité. Et c'est au cours d'une de ces jeunes armées dirigées par mon père que j'ai fait mon premier pas vers Dieu. Il y a eu un appel. Je me vois encore me lever pour m'approcher de ce Dieu que je ne connaissais pas encore, mais avec la conscience nette qu'il existait et qu'il attendait une réponse de ma part. J'avais 7 ans. C'était ma première prise de conscience. Il y en aurait d'autres. Les années qui suivent se déroulent normalement dans ce cocon salutiste. Je reçois beaucoup des camps d'enfants auxquels je participe. Notre vie d'enfant est cependant marquée par une certaine discipline. Nous sommes les enfants de l'officier. Mon père disait toujours « Rappelle-toi qui tu es, où tu es et ce que tu fais ». Il y a un modèle très fort à suivre et je sens peser sur moi l'héritage familial. En plus, je suis l'aîné de 8 et je dois montrer l'exemple. Pas question de se détourner du chemin tracé. En 61, mon père est muté à Paris, cette fois au quartier général, et nous habitons à Nanterre. Ce sont les années yéyé. Mais pas question d'écouter de musique pop à la maison, ni d'aller à une surprise party. Sauf quand le groupe Pop Alléluia venait jouer à Paris. Et là, j'avais déjà repéré mon futur époux, Gérard. Enfin, je le voyais de très loin. Jamais j'aurais imaginé qu'un jour on se marierait, mais déjà j'aimais sa voix et la conviction qu'il avait quand il parlait aux gens. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Voilà, donc en fait, moi, chez moi, le cadre était strict. Une vie très protégée, marquée par le devoir, des règles à respecter, un certain formalisme. Pourtant, j'aime Dieu et j'aspire à lui plaire. En 70, j'ai alors 19 ans, je pars aux États-Unis pour un job d'été comme monitrice dans un camp d'enfants dans le Minnesota. Ce camp accueille près de 200 filles et une quarantaine de monitrices. Parmi elles, Mélanie. Elle vient de devenir chrétienne et parle de Jésus à tout le monde. C'était l'époque de la révolution de Jésus aux États-Unis. Et bon, il y avait une grande simplicité, une grande liberté chez cette fille. Sa joie, sa simplicité m'interpellent. Le même été, je lis La Croix et le Poignard, qui raconte le travail de David Wilkerson dans les bas-fonds de New York et les conversions incroyables des jeunes dans les gangs. Je réalise que la foi ne se réduit pas à la vision un peu austère, un peu image d'épinal que j'en ai, mais que Dieu est vivant et qu'il fait toujours des miracles. À cette époque aussi, je suis touchée par une prédication. J'accordais beaucoup d'importance à ce que je ressentais au sujet de Dieu. Étais-je assez bonne ? Je me sentais sauvée un jour et pas le lendemain. Je n'avais pas de certitude. Ce jour-là, pendant cette prédication, je prends conscience de l'importance de la foi. Il s'agit de croire en l'œuvre accomplie par Jésus. Il est mort à la croix pour moi, c'est un fait. Je suis appelée à m'approprier cela par la foi. Peu importe mes sentiments, peu importe mes mérites. Pour moi, c'est une étape vraiment marquante. Et puis, elle va être suivie d'une autre étape. En 73, je suis alors assistante de français en Grande-Bretagne. Au cours d'un moment de méditation dans ma chambre, je reçois une révélation de mon péché et de ce qu'il en a coûté au Christ de mourir pour moi. Je m'effondre en larmes. Petit à petit, la vérité de l'Évangile prend corps en moi. Comment ne pas tout donner à celui qui a tout donné pour moi ? À la fin de cette année-là, j'entre au Collège de formation de l'Armée du Salut à Londres. Je me destine à servir Dieu au sein de ce mouvement, dans la droite ligne de l'exemple familial. C'est un temps fort qui rejoint ce que Gérard a évoqué, les brigades, les missions, les cours bibliques. Je me revois un jour de consécration dans l'Assembly Hall dire à Dieu, au-delà du service, ce que je désire avant tout, Seigneur, c'est te connaître. En 1974, je suis de retour en France pour un stage au Chambon-sur-l'Union. J'ai lu La troisième heure de Denise Bennett. Je cherche le baptême dans le Saint-Esprit. À l'époque, c'est un sujet tabou dans notre milieu. Rappelez-vous, nous sommes au début du réveil charismatique et on ne parlait pas de ça. dans l'armée du salut en tout cas, là où j'étais. Et je fais partie de l'équipe de la mission. Tous les soirs, nous descendons au chapiteau dressé dans le village pour y tenir la réunion d'évangélisation. En même temps, a lieu le camp de jeunes. Je remarque un jeune officier que je connaissais de loin, mais là, très sympathique, qui est encadrant dans ce camp. Le soir, nous descendons à pied jusqu'à la tente de la mission. Nous faisons route ensemble. Il est enthousiaste, il parle facilement, tout le contraire de moi. Il me fait rire, il aime Jésus. Notre sujet de conversation favori, c'est le Saint-Esprit. Il me raconte les réveils qu'il vit à Saint-Étienne dans son poste. Des sentiments naissent. Je repense à cette promesse reçue 2 ans auparavant par rapport à mon futur mari. C'est son esprit qui les rassemblera. Serait-ce lui ?
On ne peut pas faire mieux, hein ? C'est son esprit qui les rassemblera. Alors, elle est en pleine recherche de ce remplissage de l'esprit. Nos conversations sont au demeurant très spirituelles. Mais enfin, un jeune homme, une jeune fille, côte à côte, avec le même désir de servir Dieu, ça rapproche. La jeune fille est pas mal, elle a de la classe. Je suis troublé. Se pourrait-il que ce soit ma future ?
Quelque temps après, tu m'emmènes dans une réunion de prière charismatique où je demande à être rempli de l'esprit. On m'impose les mains. Rien ne se passe sur le moment, mais dans les jours qui suivent, je ressens une joie nouvelle. J'ai une révélation incroyable de l'amour de Dieu. Vraiment incroyable. Vraiment incroyable. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'avais jamais vécu ça, quoi. Quelque chose a changé. La Bible devient vivante. Lorsque je rentre à Londres pour ma 2e année, les autres cadets me demandent ce qui s'est passé. Eh bien, 2 choses. J'ai été remplie du Saint-Esprit et je suis tombée amoureuse. Voilà, nous allons correspondre, nous téléphoner, nous voir. Et puis nous nous fiançons à Noël. Je sors de l'école de formation en juillet. Je suis nommée à Paris et nous nous marions le 4 octobre. Nous sommes nommés à Roubaix, dans le Nord. Nous allons y rester 3 ans. J'en garde un souvenir heureux. C'est le début de notre vie à deux et de notre service dans ce poste. Les réunions, les visites, les animations pour enfants dans les courées, les rencontres de dames, les vestiaires, les marmites, les colis de Noël, nous ne chômons pas. La naissance de Pierre en novembre 76, puis de Thomas 78. Et là, donc, c'est une photo qui a été prise. On était parti à un congrès de l'armée du salut à Londres. Ouais. Bon, et toujours en filigrane, ce désir de vivre la plénitude de l'esprit et de permettre aux personnes de notre poste d'entrer dans cette dimension. Mais nous ne nous sentons pas libres. Le cadre imposé par la DS nous freine. L'armée du salut, pardon.
Ouais. Que de témoignages nous pourrions raconter. Mais nous n'en avons pas le temps. Toutes ces personnes qui ont été touchées par Dieu, je vois encore leur visage, hein. Seul bémol, au début nous vivions donc notre vie dans l'esprit, donc voilà, entre nous, hein, parce qu'on ne pouvait pas le vivre dans le cadre de l'Église, jusqu'à ce qu'une équipe de Besançon vienne nous encourager à la vivre ouvertement. À partir de leur visite, nous organisons des réunions de prière charismatiques avec exercice des dons et nous passons à la vitesse supérieure.
Un jour, je fais un rêve. Je vois comme une vallée encaissée qui s'ouvre, qui s'élargit, je prends mon envol. J'ai la vision de petits groupes de personnes sans uniforme qui se réunissent dans des maisons pour prier. Été 78, nous sommes nommés à Besançon, dans un poste qui n'a plus grand-chose de salutiste, car le réveil charismatique est passé par là. Ce poste est rempli de jeunes. Besançon est une ville étudiante et l'équipe précédente a fait un travail formidable parmi eux. Il y a eu une vague de conversion. Et lors du passage de Gaston Ramseyer, donc qui était un des pasteurs qui a porté le mouvement charismatique en France, au cours d'un appel, toute la salle s'est levée pour être remplie d'esprit. Autant vous dire que nous arrivons dans une communauté qui vit déjà dans le réveil. Mais l'officier ne met plus son uniforme, les ventes du journal en avant ne se font plus, tout ce qu'il y avait de salutiste a été mis en veilleuse.
Oui. Alors nous vivons de belles choses à travers l'évangélisation, hein, en résidence universitaire. et un coffee bar qui est ouvert presque tous les soirs pour accueillir des jeunes que nous accrochons dans la rue. Beaucoup de jeunes sont touchés et trouvent le Seigneur. Je vais vous donner juste un exemple. Bon, on pourrait raconter plein d'histoires, mais celle-là est quand même étonnante. C'est un jeune qui s'appelle donc Patrick, qui était dans la méditation transcendantale parce qu'il était très angoissé, enfin, il n'était pas bien. Et il fait, bon, un truc pas clair, quoi. Et je lui ai essayé de lui expliquer la différence entre une philosophie et puis une relation à Dieu. Et ça a duré 9 mois, comme une grossesse. Hein. Et toutes les semaines, on avait une conversation d'une heure, jusqu'à un jour où il tape à la porte de la maison. J'étais en train de préparer une prédication. Corinne me dit, écoute, il y a Patrick qui est là. Je dis, non, je vais encore en avoir pour une heure. Alors, elle va le revoir. Puis il dit, mais non, il veut se convertir. Oh, viens, 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 viens. Viens là. Bon, et puis il nous a raconté une chose étrange. Il a eu une vision. Il était dans une maison toute noire, toute noire, toute noire. Il se précipitait vers le haut et une fenêtre s'ouvrait. Et pour lui, c'était le moment, c'était Jésus. Donc, nous avons prié ensemble. Il a accepté le Seigneur. Nous avons prié pour sa délivrance. Parce qu'il était chargé. On a rempli une poubelle comme ça, tout menu en confettis de tous les livres sur les gourous, les machins et tout. Et c'est un gars qui avait une vie complètement transformée. Complètement transformée. Alors, où j'en suis? Alors, l'esprit est à l'œuvre et nous nous rendons vite compte que nous avons en tout cas été nommés pour ramener tout le monde dans le bercail salutis, c'était l'inverse qui se produit. Impossible de mettre du vin nouveau dans deux vieilles outres. Hein. Et nous avions donc... l'équipe, c'était où? Non, c'est pas là. Je ne sais plus où j'en suis, c'est pas grave. Hein. Voilà. Alors, donc... Alors, à Besançon, nous sommes donc une équipe de 3 ministères pour diriger l'Église. Donc, il y a Patrick, Vauclair et sa femme qui ont plutôt le ministère pastoral. Jean-Marie Lito, plus pour le... Hein? Ah oui, c'est toi? Alors, attends,
je me suis trompée. Oui. Bon. Quelques mois plus tard, l'Armée du Salut nous met en demeure de faire un choix. C'est quand même une étape importante pour nous. Et nous décidons de quitter l'Armée du Salut et de créer une Église locale indépendante. Et pour moi, c'est un pas de foi énorme. Moi qui ai vécu toute mon enfance, toute ma jeunesse dans l'Armée du Salut, je vis cela comme un déchirement et en même temps comme la libération d'un carcan. Avec le temps, je ferai la part des choses et je reconnaîtrai la richesse de l'héritage reçu, même si j'ai choisi un autre chemin. Merci.
Bon. Ça, c'est parce que je laisse ma feuille là. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes une équipe de trois ministères. Patrick et sa femme dans le ministère pastoral. Jean-Marie Lito, qui était un très très bon enseignant, ancien darbiste, vous comprenez qu'il connaissait la parole. Et moi pour l'évangélisation. Ça fonctionne plutôt bien, jusqu'au jour où il y a un renversement total de situation que je vis comme un abus de pouvoir. Les anciens responsables veulent reprendre les rênes de l'Église. Malgré les fruits manifestes, on me dit que je n'ai pas de ministère. Vous imaginez dans quel état je peux me retrouver après. L'équipe vole en éclats. Chacun part de son côté, l'atmosphère est devenue irrespirable et invivable pour nous. Par égard pour l'Église, nous décidons de partir sans faire de vagues, mais où aller? Peu de temps auparavant, nous avons fait la connaissance de l'Assemblée chrétienne de Nîmes lors d'une convention. Le climat, l'enthousiasme de cette petite communauté nous avait plu. L'équipe d'anciens de Nîmes est d'accord pour nous accueillir. Je me rends à Nîmes pour une journée en éclaireur, c'était fin 80. Je demande un signe à Dieu. Si tu me donnes un logement dans la journée, Jean-Louis va s'en rappeler, et un travail, je saurai que tu me veux à Nîmes. Devinez. Dans la journée, nous allons avec Jean-Louis. Lève la main, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore. Voilà, Jean-Louis, c'est lui, oui. Qui était... ouais. Alors, vous allez voir que c'est quand même beau, hein. Donc, nous allons donc... hop, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Donc, alors... et. Oui, le logement, oui, c'est parce que j'ai pu, hein, voilà. Et alors donc, on est allé dans une agence immobilière avec Jean-Louis, d'accord. On a trouvé un appartement qui nous convenait, et Jean-Louis, qui nous connaissait pas plus que ça, s'est porté caution. Donc ça veut dire que si on payait pas, c'est lui qui payait. Hein. Donc c'est quand même une preuve d'amour, c'est ça les chrétiens, eh oui. Et dans la journée, je prends le Midi Libre, j'ouvre les pages du Midi Libre, je vois le Livre de Paris, recrute. Je téléphone, venez, je vais voir, bon, on vous embauche. Voilà, donc j'ai trouvé les deux, je savais qu'il fallait que je vienne.
Donc nous arrivons à Nîmes en janvier 1981, donc en plein hiver, avec nos trois enfants en bas âge. Donc Timothée, le troisième, est né à Besançon, dans un appartement retapissé par les soins de l'église. La chaudière est allumée. Ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Pour nous, c'est une renaissance. Nous nous engageons à fond dans cette petite communauté si chaleureuse qui nous accueille à bras ouverts. Elle se réunit alors au quai de la Fontaine. Tout ce que nous savons faire, tout ce que nous avons appris à faire, nous le faisons. Réunion maison, école du dimanche, évangélisation dans la rue, participation à la chorale. Je m'occupe de nos trois garçons. On est à fond pour soutenir cette église qui démarre. Je me sens bien, en sécurité, heureuse de faire partie de cette communauté pleine de vie et de grâce. Nos enfants s'épanouissent dans cet environnement. Ils retrouvent leurs copains à l'école du dimanche, au pèlerin, où très vite ils s'engageront comme moniteurs, puis dans d'autres activités de l'Assemblée. Un souvenir marquant de cette période qui aura son importance pour la suite. Un soir, notre numéro 2, Thomas, alors âgé de 7 ou 8 ans, nous montre sa plante de pied. Elle est couverte de verrues qui le font souffrir. Rendez-vous est pris avec le médecin. Il nous annonce qu'il faudra opérer, enlever la masse de verrues et qu'il y aura plusieurs semaines de cicatrisation. Pas question de faire vivre ça à notre fils. Nous décidons d'oser la prière. Plusieurs jours de suite, au moment de la prière du soir avec nos enfants, nous prions avec lui pour que les verrues s'en aillent. Elles partiront une à une, toutes. Merci Seigneur.
Alors, de mon côté, c'est un peu différent, bien sûr. Il faut se reconstruire, après ce qu'on m'a dit, hein. Le plus dur pour moi est d'accepter, et ça il s'en rappellera Jean-Louis, de ne plus être à plein temps pour Dieu et de devoir travailler dans le monde séculier. Ça a été très très dur. J'avais l'impression de perdre ma vie, de perdre mon temps parce que j'avais le temps pour prier, pour faire... Les pasteurs, ils ont du temps, hein. Je vous le dis. Hein. Pour faire les choses sérieuses. Non, mais il faut le dire. Hein. Oui, oui. J'ai l'impression de perdre mon temps et c'est dur. Il me faudra du temps pour accepter le fait que Dieu peut se servir de moi même en travaillant. Alors, au livre de Paris Hachette, où je travaillais, ceux qui m'ont embauché là, hein, dans la journée, là, bon. Alors, il y a beaucoup de turnover, beaucoup de personnes cessées au métier et repartent face aux difficultés rencontrées. Parce que vendre des encyclopédies en porte-à-porte, c'est pas donné pour tout le monde. Hein. Mais ce qui est formidable, c'est comme il y a un bon turnover, beaucoup de gens passent par là. Donc, beaucoup de gens avec qui, et des collègues avec qui j'ai pu donc témoigner. Donc... et qui sont venus ici, il y a plusieurs conversions. J'ai même prié pour mon directeur d'agence, pour mon animateur, on s'est retrouvé à genoux dans le champ pour prier parce qu'il avait le cancer. Je veux dire, donc j'ai vécu des choses vraiment étonnantes, des gens que je visite et qui sont convertis, les Besatis, qui maintenant sont encore au Seigneur. Donc c'est formidable. Alors au niveau de l'église, c'est formidable, il y avait les défilés dans la rue, les bannières, ça me plaisait, moi. Hein. Alors on s'est lancé dans les plein airs. Donc là, j'ai amené bon voilà, la prédication dans la rue, je faisais témoigner les gens, je leur filais le micro, j'étais tout jeune, allez, tu vas témoigner. Ah, elle se rappelle. C'est Béatrice. Hein. Bon. Alors, et après, il y a eu, donc, nous commençons à évangéliser donc, la résidence universitaire avec une petite équipe. Daniel, une étudiante, a pris une chambre dans la résidence pour qu'on ait un lieu de rencontre sur place. Eh bien, sur les 3 années d'évangélisation, nous avons eu plus d'une vingtaine d'étudiants qui se sont convertis. Certains sont mariés, ont des enfants, sont dans des églises différentes. C'est extraordinaire. Et pour vous dire comment Dieu peut se servir de nous, même quand on n'est pas en forme, une fois je suis venu à évangéliser, j'étais dans la chambre, j'ai envoyé les équipes, j'en avais marre, j'avais pas envie d'aller évangéliser. Allez-y, fais. Et je suis resté là, tranquille, hein, pour... fais travailler les autres. Et puis, j'entends taper à la porte. Ils avaient parlé avec un jeune qui s'appelait Philippe. Il vient taper. Bon. Il vient, je lui parle du Seigneur. Il attendait que ça, donner son cœur à Dieu, il s'est converti, il est encore au Seigneur. Formidable. Donc, alors, on a vécu des temps bénis. Après, il y a eu le bus anglais qui est sorti, puis aussi des personnes qui ont trouvé le Seigneur. On avait un bus anglais qu'on mettait dans tous les endroits de la ville ou dans les villages pour évangéliser. Donc, oui. Ah, c'est toi, hein ? Voilà.
Voilà. Alors si l'engagement dans notre communauté nous apporte, à partir des années 90, nous allons connaître d'autres bouleversements, d'autres occasions aussi d'être témoins de la fidélité de Dieu. Si l'engagement dans la communauté nous apporte beaucoup de joie, l'arrivée de l'informatique va obliger Gérard à changer de travail. Les enfants grandissent, nos besoins aussi. Le moment est venu de faire ma part. J'arrive sur le marché du travail. Pour moi, à 42 ans, c'est un défi énorme de m'inscrire à la NPE, de suivre un stage d'insertion. Grâce à Dieu, je suis recrutée par la Chambre de commerce pour donner des cours de langue. J'y resterai pendant 15 ans. La Chambre de commerce devient mon champ de mission, le lieu où je fais briller ma lumière. Ce travail m'apporte beaucoup de satisfaction et des occasions de témoigner de ma foi. Par la suite, une nouvelle porte s'ouvre, famille d'accueil. Un métier riche et exigeant qui permet de s'engager au plus près des enfants accueillis et où l'on se remet beaucoup en question. C'est une école d'humilité et de patience qui nous engage tous les deux, ma mari et moi. Heureusement qu'il est là. Ce que je retiens de ces 13 années, ce sont les liens créés avec les enfants, l'enrichissement reçu à leur contact, au contact des équipes, la satisfaction d'avoir servi la société et quelque part œuvré à sa cohésion. Que de fois nous avons vu Dieu intervenir dans l'apaisement d'une situation, un dialogue qui se renouait, un renouvellement de force accordé pour continuer. Et pour cette période, en ce qui me concerne, je voudrais aussi évoquer la longue maladie, puis le décès de ma mère, la disparition à 41 ans de ma sœur Déliane, dont j'étais très proche, dans des circonstances douloureuses. C'est une période difficile. Il faut accepter la perte des êtres qu'on aime, accepter de ne pas comprendre pourquoi, accepter les questions sans réponse, confronter sa foi à la réalité de la vie qui vous rattrape. Dieu n'a pas promis de nous épargner les épreuves, mais de nous aider à traverser la vallée de l'ombre de la mort, en versant de l'huile sur nos têtes, en dressant pour nous une table en face de nos adversaires, en nous guidant. Et autre étape un peu compliquée aussi pour moi, c'est le départ des enfants, le nid qui se vide. Nos fils s'en vont un à un pour travailler, pour se marier. Eh bien non, ils n'ont plus besoin de nous. Eh bien oui, désormais il faudra composer avec une autre. Mais alors, à quoi je sers maintenant? Que vais-je devenir? En même temps, une grande fierté, une grande reconnaissance pour ces couples qui se forment, qui s'engagent, ces petits-enfants qui viennent peu à peu enrichir nos vies. Voilà, la tribu. Voilà, on aurait voulu qu'ils viennent ce matin, mais ils sont tous les trois engagés. Il y en a un qui prêche, l'autre qui s'occupe des enfants, et le troisième qui est parti à Valence faire un week-end. Voilà, donc ils auront le CD. Voilà, mais on est tellement reconnaissants et fiers d'eux. Voilà, et pour continuer, donc les changements, les bouleversements que j'ai évoqués ne se verront pas sans remise en question ni sans angoisse parfois. Et là, j'ai envie d'être vraie. J'ai envie de dire qu'une aide thérapeutique me sera nécessaire après tous ces bouleversements. Elle m'aidera à mettre des mots justes sur ce qui se passe, sans pour autant renier la dimension spirituelle de ma vie. Et ce qui évoque le mieux, à mon sens, cette force qui me tient, qui m'aide à garder le cap malgré le ressac, c'est l'encre évoquée par Paul. Cette espérance, donc l'espérance dans le ciel, l'espérance en Jésus, elle est pour nous comme l'encre de notre vie sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous. Donc cette espérance qui, malgré les flots, malgré le ressac, permet de garder le cap et permet de rester relié au Seigneur.
À l'automne 2001, nous accompagnons Jean-Louis à Brighton, en Angleterre, pour une conférence New Frontier. Là, une surprise du Seigneur nous attend. Une présentation du parcours Alpha par Nicky Gumbel lui-même, celui qui en est l'initiateur. C'est un parcours qui permet d'accueillir dans un cadre convivial des personnes en questionnement sur le sens de la vie, un repas, un topo, un temps d'échange. Le parcours se tient sur 10 semaines avec un week-end sur l'Esprit Saint au milieu. Ces parcours sont organisés dans toutes les confessions chrétiennes, aussi bien catholiques, protestantes et orthodoxes, dans plus de 169 pays. Désirant savoir plus, nous allons dans la paroisse de Newquay à Londres pour suivre cette formation, payée par l'Église en plus. Gloire à Dieu, hein. Faut le dire ça quand même. Hein. Voilà. Et nous démarrons le parcours Alpha de Nîmes en mars 2002. Il se fait d'abord dans un appartement, alors chez Jean-Louis, chez les Valentin, et voilà. Et ça, c'est la photo qui est pour le week-end, qui se trouve à la salle. Et ça, c'est notre premier parcours avec Marie-Claude, Et puis, peu importe, donc, et bien, voilà, et il y en a sur les quatre, il y a trois personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur. C'est formidable, ça, c'est les premiers parcours. Donc, après, ce parcours s'est déplacé rue des Tilleuls, donc, parce que, pour que, avoir un local un peu plus grand qu'un appartement. Et puis après, on est passé au CMLK, donc ici dans notre local. Et nous avons eu la joie de voir beaucoup de personnes trouver la foi. Et c'est la 16e année que ce parcours est proposé dans notre église. Et pour bien réaliser, je vais demander à toutes les personnes qui ont été touchées par le parcours Alpha, ou qui y ont travaillé, ou qui ont participé, de se lever. Pour vous rendre compte. Et ils ne sont pas tous là. Hein, ils ne sont pas tous là. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Hein.
Quelques mots sur Alpha de mon point de vue. Donc pour moi, Alpha, c'est l'émerveillement d'avoir entre les mains un outil qui nous permet donc d'accueillir des personnes en recherche et de les accompagner dans leur cheminement. C'est la joie de servir avec Gérard. À lui, la parole, l'enthousiasme, le dynamisme, le sens du contact et une foi incroyable. À moi, le plaisir d'organiser, de faire lien avec les invités, l'équipe, l'église, d'être actrice dans un engagement qui fait sens à tant de niveaux. Au travers des années, l'émerveillement devant le fruit de ses parcours, les équipes qui se renouvellent, la richesse des rencontres et l'œuvre de Dieu dans toutes ses vies. Et puis aussi, la joie de voir d'autres églises de la région se saisir d'Alpha et rayonner à leur tour.
Ensuite, eh bien, nous allons être nommés donc, coordinateur régional et permettre au parcours donc, de se répandre dans toute la région, dans le milieu catholique et protestant.
Un matin d'octobre 2014, en rentrant de l'école, je suis encore assistante familiale, je suis renversée par une voiture dont le conducteur n'a pas vu le signal piéton. Une douleur fulgurante me traverse le bas du dos. Je suis transportée aux urgences. Longue attente. Interdiction de bouger. Je dois rester allongée. Les examens révèlent une fracture de la T11. Je l'ai échappée belle. À quelques millimètres près, je restais paralysée. Alors c'est le questionnement. Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais en même temps, la reconnaissance d'avoir été préservée du pire. Au bout d'une semaine d'hospitalisation, je sors avec un corset que je vais devoir garder pendant plusieurs mois. Je ne peux plus rien faire. Je suis dépendante de mon entourage. Tout s'est arrêté. Je n'ai droit qu'à la position allongée. Le temps est suspendu. Il me reste deux trésors. La sollicitude de mon mari qui fait tout, les courses, le repas, le ménage, et puis ma relation avec Dieu. J'écoute de la musique de louange, en français, en anglais, héritage et d'autres. Le Seigneur devient tout proche. C'est comme s'il était dans la chambre avec moi et qu'il me parlait. Je prends conscience comme jamais auparavant de son amour et de sa grâce. En même temps, une longue convalescence commence. Un long travail de kiné et d'ajustement pour retrouver petit à petit les gestes du quotidien et apprendre à fonctionner avec ce dos abîmé. J'ai été touchée physiquement, moralement, mais mon être intérieur vit. J'apprends à la reconnaissance. Je découvre le livre « Un moment avec Jésus » qui me fait beaucoup de bien. La vérité de sa parole, le soutien des frères et sœurs, notamment à travers Espoir Plus, m'aide à me redresser intérieurement, à retrouver des repères. Mais les choses ne seront plus jamais comme avant. Le virage de la retraite s'amorce. À 65 ans, il est temps de souffler. J'aspire à vivre ce temps pleinement. Je suis disponible, mais pourquoi ?
En 2017, nous participons donc à un stand tenu par les élèves de l'église d'Alès, l'Assemblée chrétienne, donc, qui s'appelle l'école dans sa présence, et dans le jardin de la Fontaine. Le but est de bénir les passants par différents moyens, de la peinture de tableaux inspirés, confection de mots en fil de fer, distribution de cartes, de câlins gratuits. D'autres partent deux par deux pour aller bénir les gens. Expérience incroyable qu'on avait vécue avec Pascal aussi, hein, pendant laquelle nous ressentons la présence de Dieu dans cet endroit du jardin. Des gens sont touchés, restent, parlent avec nous. Nous prions pour certains. Cela nous donne envie d'aller plus loin. Peu de temps après, nous avons l'opportunité de nous inscrire à cette école donc, pour la rentrée 2017. Pourquoi pas ? À raison d'un samedi par mois, c'est faisable.
L'objectif de l'école dans sa présence, c'est être transformé pour transformer autour de soi. Je voudrais évoquer cela avec deux petits tableaux que j'ai peints cette année qui exprime en quelque sorte des révélations que j'ai reçues par rapport à cette école. D'abord, mon Père Céleste. Dieu est mon Père Céleste et il aspire à me rencontrer, à me parler au travers de tant d'intimité avec lui. Voici ma fille bien-aimée en qui je prends tout mon plaisir. Je me suis vue comme une enfant assise sur les genoux de son père, qui l'écoute, la rassure et lui parle avec douceur. Je n'ai plus besoin de vivre dans la performance, mais simplement d'être là, dans sa présence. Je suis aimée, précieuse à ses yeux, telle que je suis. Et le deuxième tableau, de ces temps de tête-à-tête découle une vision renouvelée de son amour et des pluies de bénédictions qu'il est prêt à déverser sur nous et sur tous ceux qui nous entourent. J'en suis là, maintenant. J'aspire à grandir encore plus dans cette dimension de joie et de liberté, de créativité et d'amour.
Pour moi, ça va être un renouvellement complet dans ma communion avec Dieu. Il s'agit de vivre en permanence dans la réalité de sa présence et dans la réalité que nous vivons dans son royaume et de faire mienne la prière du Notre Père, que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Je m'étais installé dans une routine spirituelle, mais le Seigneur a fait naître en moi un désir de plus de sa présence, plus de fruits dans l'évangélisation. Pendant longtemps, j'avais mis en opposition la guérison et l'évangélisation. Je disais, comme bon évangéliste, c'est plus important d'amener les personnes à la nouvelle naissance parce que la personne qui naît de nouveau, qui se convertit, entre dans la vie éternelle. La personne qui est guérie, si elle ne se convertit pas, elle va en enfer. C'était réglé, hein ? Et le Seigneur m'a retourné comme une crêpe. Et il m'a fait comprendre l'ordre de Jésus à tout croyant, pas à des ministères en particulier. Allez, à nous tous, annoncez la bonne nouvelle. La suite, c'est guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Je réalise que ces signes sont la manifestation de l'amour extravagant de Dieu pour le monde d'aujourd'hui et que le but de ces miracles est d'attester la vérité du message. À la lecture des livres recommandés par l'école dans sa présence, de Bill Johnson, « Quand le ciel envahit la terre » ou « La puissance d'un esprit transformé », et à travers les enseignements reçus dans cette école, eh bien, je mets en pratique ce que j'ai reçu. Entre-temps, je rencontre un ami, quelqu'un qui est devenu mon ami, qui s'appelle David Thévenet, de l'Assemblée chrétienne de Marguerite, qui lui, depuis 10 ans, prie pour les malades. Et je me dis, tiens, comment il fait ? Donc, je suis allé avec lui, parce que je me dis, si jamais les gens ne sont pas guéris, comment ils font ? Donc, j'en ai fait l'expérience. Je suis allé avec lui et j'ai vu que ce n'était pas si difficile de prier pour les malades. Et puis, c'est Dieu qui fait le reste, hein, c'est Dieu qui guérit. Et la première expérience que j'ai eue, certains le savent, mais bon, voilà, c'est ma boulangère. J'allais chercher mon pain très tôt le matin et puis j'ai vu qu'elle n'était pas bien. Je lui ai dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, elle me dit, oui, j'ai des problèmes avec l'oreille interne, j'ai la tête qui tourne et je suis très, très mal. Alors, comme il n'y avait personne dans la boulangerie, je lui ai dit, bah, écoutez, vous savez que je suis chrétien. Elle me dit, oui, est-ce que vous voulez que je prie pour vous ? Elle me dit, oui. Donc, je prie. Et comme David le faisait, j'ai chassé la maladie en disant, hop, oust. Et puis, la femme guérit. 3 jours après, j'ai toujours rien. 3 jours après, je vais rechercher mon pain. J'ai toujours rien. Elle a été guérie. Donc, je pourrais, bon, on n'en a pas le temps, hein, vous raconter plein de choses, plein d'autres guérisons que j'ai pu voir, et puis de manifestations de la grâce de Dieu. Mais bon, c'est des manifestations. Moi qui n'étais pas du tout un gars qui priait pour les malades, je suis un évangéliste. Eh bien voilà, on peut entrer dans cette dimension-là. Et je fais un rêve. Imaginons, vous savez combien on est là ? C'est la Pentecôte. Hein, on est 50. Imaginez que la prise de risque, vous la prenez comme moi. Et qu'on se retrouve à 50 sur le Jean Jaurès, à annoncer l'évangile et à prier pour les gens, que des gens sont guéris. La semaine d'après, parce qu'il faut être régulier, ils viennent amener leurs amis, qui eux aussi ont besoin. Vous avez le réveil à Nîmes. On prie le changement de la ville, le changement de la ville, il est là, et il est entre nos mains. Formidable, hein ? Alors j'aimerais faire 2 appels. Le premier en relation avec ce que j'ai vécu, l'étoile de mer. C'est incroyable. Au bord de la mer, elle sèche. Et quand elle est sèche, après, il n'y a plus possibilité qu'elle revienne à la vie. Alors, pourquoi ? Parce que son élément naturel, c'est la mer. Son élément naturel, c'est Dieu. et elle ne peut s'épanouir qu'en Dieu, qu'en lui. Alors j'aimerais en tout cas m'adresser à des gens qui sont peut-être là pour la première fois, ou pour vous dire, est-ce que vous voulez recevoir la vie de Dieu dans votre cœur? Est-ce que vous voulez simplement dire à Jésus, viens, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que ma vie change. Et je vous assure, il le fait. Je n'ai jamais rencontré dans mon ministère une seule personne qui ait voulu rencontrer Dieu qu'il n'ait pas rencontré. Aucune. Maintenant, il faut faire le pas. C'est aussi simple que ça. Alors j'aimerais en tout cas adresser un appel et demander à ceux qui voudraient justement recevoir le Seigneur dans leur vie, de lever la main simplement et de dire, bien Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie et de le faire dans la simplicité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment accepter le Seigneur Jésus? Amen. Tu manifestes ta grâce. Et le fait simplement de lever la main, je vous ai vu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tu te révèles. Tu te révèles à mon frère et à ma sœur, Seigneur. Et à mon frère qui s'est levé là derrière aussi. Tu manifestes ta grâce. Tu te glorifies. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Et qu'il vous touche. Le Seigneur vous aime d'un amour dont vous n'imaginez pas. C'est extraordinaire. Ça fait 50 ans que je suis chrétien. Et ma vie est de plus en plus... Voilà. Je vais vous dire, il me reste 10 années de 70 à 80 de validité encore. Je veux les vivre à fond la caisse. Et je vous garantis que je vais vous bouger parce que je veux voir des choses se réaliser. Je vous assure, on est à ça du réveil. On est à ça du réveil. Dieu veut nous utiliser pour le salut des âmes. On est à ça du réveil. Et Dieu, voilà. Alors maintenant, je vais m'adresser. Vous pouvez vous asseoir. Je viendrai vous voir après. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et maintenant, j'aimerais m'adresser à l'Église, à vous, chacun d'entre vous. J'ai reçu une vision hier. C'est la vision d'Ézéchiel. Vous savez ce que c'est la vision d'Ézéchiel? On est au bord de la rivière. La rivière, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. D'accord? Et il nous demande d'entrer dans cette rivière. Alors, il y a des gens qui ont de l'eau jusqu'aux chevilles. Ils se reconnaîtront. Il y a des gens qui ont de l'eau jusqu'aux genoux. Ça veut dire quoi? Je maîtrise. Et ça tue l'esprit. Je maîtrise. Je maîtrise ma vie. Il y a des gens qui ont de l'eau jusqu'à la taille. Le Seigneur nous demande d'avoir de l'eau. Non. D'aller dans la rivière et de se laisser. Alors je vous pose la question, chacun d'entre vous, est-ce que vous voulez rester dans votre confort spirituel, là où vous maîtrisez les choses, parce que vous ne savez pas où le Seigneur va vous amener, et nous ne le savons pas, nous, hein, tous. Hein? Donc, est-ce que je veux m'emporter? J'ai vu cette image extraordinaire. Au bord de l'eau, il y a des arbres qui apportent la guérison. Tiens. Et si vous êtes emporté dans la rivière, elle vous amène où? Dans la mer morte. Et qu'est-ce qui se passe dans la mer morte? Elle est assainie et il y a la vie. Vous vous laissez emporter par l'esprit. Vous êtes emmené dans la mer, dans le monde, et vous changez le monde. Et nous changeons le monde, nous changeons cette ville. Alors, le Seigneur fait un appel pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu veux me laisser au contrôle de ta vie pour que le réveil atteigne toute la ville? C'est un appel que j'adresse, que ceux qui veulent faire un pas de plus et qui se disent « je veux aller plus loin », se lève. Et on va prier. Et ça a été ma prière, et je vous assure que de jour en jour, ça transforme ma vie, il me fait faire des choses complètement stupides, mais ça fait rien. Gloire à Dieu. Enfin, c'est pas stupide, mais je vous raconterai. Mais je vais prier pour vous. Seigneur, et je vais me mettre avec vous. Seigneur, je veux te dire que je désire plus de ta présence et que tous là ici, nous sommes debout parce que nous désirons plus de ta présence et parce que nous désirons que tu sois au contrôle de notre vie, que tu sois au contrôle de l'Église et que nous voulons entrer dans cette vague de réveil, Seigneur, qui se manifeste partout dans le monde et pourquoi pas à Nîmes. Gloire à Dieu. Et tu veux manifester ta puissance à travers nous, Seigneur, et nous voulons nous rendre disponibles pour le salut des âmes et pour que ton règne avance. Amen. Alors, pour vous dire, après je laisse le micro, ce que je suis en train de faire en ce moment, mais c'est parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire, je vous le dis, je ne demande rien à personne, mais je sais que c'est le ferment du réveil. Actuellement, je suis en train de parcourir la ville de Nîmes, je me mets devant chaque porte, chaque sonnette, je prends conscience, je prononce le nom des gens, je les présente devant Dieu, et je dis que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Et je vous garantis, je ferai toute la ville. J'ai fait déjà pas mal de quartiers. Et je sais que là, on est en train de labourer le terrain et qu'il va se passer quelque chose, mes amis. Soyons prêts à ce que le Seigneur va faire. Amen.